Hello à tous et bienvenue sur le podcast La tête en mer. Ce podcast partage les récits de plongeurs, ces femmes et hommes qui vivent des expériences incroyables sous l'eau. Nous parlons de leur parcours, de leur témoignage de la vie marine et des plongées exceptionnelles qu'ils réalisent. Un voyage autour du monde et la tête en mer assurée. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 18 de La tête en mer avec François Sarano, océanographe, ancien conseiller scientifique du commandant Cousteau, chef d'expédition de la Calypso pendant 13 années, conseiller et plongeur dans l'équipe de Jacques Perrin pour son magnifique documentaire Océan. François Sarano est aussi le fondateur de l'association Longitude 181, une association que j'affectionne beaucoup pour ses actions de sensibilisation et sa charte du plongeur responsable. François est un explorateur et un plongeur hors pair qui a été à des endroits où personne n'a été auparavant. Quand je l'ai entendu parler pour la première fois au Salon de la Plongée, j'ai été captivée par son discours et son aura. Quelle chance et quel honneur d'avoir pu échanger avec ce grand homme que j'ai appelé le Pierre Rabhi de la mer. J'espère que vous apprécierez cette interview, plein d'enseignements et de sagesse. Bonne écoute, et plus que jamais, je compte sur vous pour partager et parler du podcast un maximum autour de vous. Si vous êtes sur Apple Podcast, n'hésitez pas à mettre une note sur iTunes, cela aidera à faire remonter l'épisode dans les résultats. Merci à tous. Bonjour François.
Bonjour Audrey.
Merci beaucoup d'avoir répondu présent à mon invitation. J'ai eu l'immense plaisir de vous rencontrer sur le Salon de la Plongée cette année. Je suis tombée sur votre conférence un petit peu par hasard et comme tous les gens autour de moi qui vous écoutaient, on était captivés par ce que vous disiez. Il y avait une photo d'un énorme requin derrière vous et on vous voyait en tout petit en train de plonger à côté de lui. Et je suis retournée vous voir sur le stand de votre association Longitude 181. Je tenais à vous rencontrer et à vous remercier pour votre conférence. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je vous ai dit que pour moi, vous étiez le Pierre Rabhi de la mer. Voilà,
Pierre Rabhi est unique. Pierre Rabhi est unique et c'est un modèle exceptionnel. Par conséquent, la comparaison est un petit peu osée. C'est une des personnes qui m'a beaucoup fait réfléchir, qui me guide, que j'ai eu la grande chance de rencontrer, et encore une fois quelqu'un qui a su allier sa vie. C'est vraiment avec ses idées, enfin, il est authentique, c'est quelqu'un que j'admire infiniment.
Voilà, donc vous avez rigolé, vous m'avez dit « Pierre Rabhi est un grand homme », comme si vous n'en étiez pas un. François Sarano, vous avez travaillé…
1m75, c'est pas très grand, hein, ça je peux vous dire. À côté de tous mes copains, je suis toujours tout petit sur les photos.
Ouais, mais ça sert souvent d'être le plus petit, et la preuve, puisque vous avez été conseiller scientifique du commandant Cousteau, et vous étiez chef d'expédition de la Calypso. Rien que ça.
Mais alors, là encore, le commandant Cousteau a eu des tas de conseillers scientifiques. Vous savez, l'œuvre du commandant Cousteau, elle s'étale sur 50 ans. Par conséquent, il y en a eu des gens qui sont passés sur la Calypso. Il en a eu des conseillers. Il avait 10 bras droits. Mais c'était une faveur et quelque chose de fantastique que d'être à ses côtés parce qu'il vous permettait de faire ce que vous souhaitiez faire. Il vous donnait les moyens d'explorer, il vous donnait l'enthousiasme qui soulève des montagnes, et c'était lui le moteur. Nous autres, nous suivions tous ceux de l'équipe, tous ceux des plongeurs, des scientifiques qui étaient à ses côtés, nous profitions de son aura et des moyens qu'il nous donnait.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment vous en êtes arrivé à le rencontrer ?
Comment j'ai rencontré le commandant Cousteau ? Ben, un peu par hasard, parce que c'était juste après mon doctorat d'océanographie. Je cherchais du travail et il se trouvait que j'ai répondu à une offre qui concernait l'aquarium de Monaco, dont Cousteau était le directeur, que j'ai été retenu sur ce poste et que j'ai eu l'occasion de le rencontrer. Il m'a alors proposé de venir avec lui sur la Calypso. J'avais décroché un autre poste de chercheur très intéressant à ce qui est aujourd'hui l'IRD et qui était l'autre fois l'Orstom. Et donc, J'ai hésité entre les deux. Il m'a dit, mais si vous hésitez, que vous avez du temps, venez donc à bord de la Calypso. Et c'est ainsi que je suis parti à bord de la Calypso pour un essai qui a duré 13 ans jusqu'à son décès.
D'accord, très bien. Et alors, je vous disais tout à l'heure, je me suis permise de baser mes questions sur le livre que vous avez, alors que vous n'avez pas écrit, mais dans lequel vous avez été interviewé, qui s'appelle « Réconcilier les hommes avec la vie sauvage ». Donc, en lisant ce livre, j'ai noté toutes mes petites questions, et Dieu sait s'il y en a, donc j'ai dû condenser pour cet entretien. Vous disiez dans ce livre qu'avant de rencontrer le commandant Cousteau, vous étiez chercheur. Et en rejoignant la Calypso, vous avez été viré. Ça m'a interpellée et je me suis demandé du coup, est-ce que la science était dérangée par les explorations du commandant Cousteau ?
Non. Alors, dans ce livre, écrit par Coralie Chaube, c'est important. Okay. Ça a été des moments délicieux que nous avons passés ensemble au cours de ces grands entretiens, mais il faut rendre à Coralie la belle écriture et surtout l'ordonnancement de ce livre. Non, il n'y avait pas incompatibilité entre la recherche et Cousteau. En revanche, il y avait incompatibilité entre deux postes. Et il se trouve que j'avais été retenu donc, sur ce poste de chercheur et que le directeur de l'Orstom à l'époque n'avait pas apprécié que j'aille travailler auprès de Cousteau et m'avait dit « Puisque vous avez abandonné une carrière dans la fonction publique au profit de ce charlot de Cousteau, on n'a plus rien à se dire. » Donc, effectivement, à l'époque, refuser une carrière de chercheur, carrière, oulala.
C'est un mot qui ne vous plaît pas ?
Non, je ne suis pas très carriériste. Non, je ne sais pas ce que ça veut dire, une carrière. En tout cas, une carrière dans la fonction publique pour une vie en équipe avec d'abord l'équipe de Cousteau, l'équipe de la Calypso, puis l'équipe de Jacques Perrin, puis l'équipe de Longitude 180, puis toutes les équipes. Je choisis tout de suite équipe, équipe, équipe. Adieu carrière.
Et pourquoi, quand on est chercheur dans la science, on ne retrouve pas cet état d'esprit d'équipe ?
Oh, on doit le retrouver certainement, mais c'est vrai qu'on est toujours un petit peu plus enfermé dans son sujet de recherche, concentré sur des détails que l'on partage peu, avec moins de monde, et puis on est parfois un peu perdu dans ces données, ces toutes petites données, voilà. Tandis que à bord de la Calypso, tous les jours, on partageait des découvertes, des explorations, des moments parfois formidables aux côtés des grands animaux, d'autres difficiles lorsqu'on était dans la tempête, mais toujours solidaires, ensemble, on vivait les choses ensemble.
Combien vous étiez à peu près sur la Calypso ?
Alors, sur la Calypso, nous étions 24 et entre 5 et 6 plongeurs et les autres membres de l'équipage, le pilote d'hélicoptère, le radio, le capitaine, le cuisinier, Patrick le cuisinier, heureusement qu'il était là, et tous les mécaniciens et les marins nous permettaient d'aller explorer en tout bien-être, en toute tranquillité, parce qu'ils s'occupaient de nous, ils nous choyaient. Nous étions un petit peu les privilégiés du bord parce que tout était fait pour que nous puissions explorer librement à notre guise, à notre gourmandise, les lieux où nous étions. Des lieux où parfois personne n'était jamais allé et où personne ne retournera jamais tellement ils sont improbables.
C'est exactement la prochaine question que j'avais. C'est quand vous parlez de commandant Cousteau ou de votre équipe sur la Calypso, vous vous décrivez comme des explorateurs qui ont été à des endroits où personne n'a été auparavant et où peut-être personne n'ira jamais. Et ça m'a un petit peu interpellée. Pourquoi on n'y retourne pas ? On va bien sur la Lune, on va bien en espace. Pourquoi on ne retournera pas là-bas ?
Alors, pour plusieurs raisons. D'abord parce que la mer est incroyablement vaste et la probabilité pour retourner au même endroit est là encore très improbable. Ensuite, ce lieu a changé. il n'existe plus. Il a évolué depuis maintenant près de 30 ans, parfois 40 ans. Donc, il est bien différent. Ensuite, ces lieux, je prendrais, aller plonger à l'île Curtis, dans l'archipel des Kermadec, au nord de la Nouvelle-Zélande, c'est très peu probable, parce qu'il faut une logistique particulière. Il faut vraiment une volonté d'aller explorer les lieux les plus éloignés du globe pour y retourner. Et il y en a tant. Qui ira à nouveau plonger dans l'archipel des îles Auckland, au sud de la Nouvelle-Zélande, un lieu de tempête à Monumental Island? Oh, personne. Qui veut aller plonger là-bas? Qui ira plonger sur la côte ouest de l'archipel des Mentawai, la petite île Sibérout, à l'ouest de Sumatra? Qui fera ça? C'est trop improbable. Et en plus, nous bénéficions à l'époque de possibilités à la fois donc logistiques et qui nous permettaient d'atteindre des lieux qu'on ne peut pas atteindre aujourd'hui. La petite soucoupe plongeante de la Calypso nous permettait d'aller plonger à 300 mètres de profondeur là où nous voulions. Donc, on a fait des explorations qui sont inimaginable aujourd'hui, puisqu'on n'a même pas les sous-marins pour faire ça sur des petits bateaux. Il existe bien des sous-marins qui vont même plus profond, mais ils sont si peu nombreux que la probabilité pour rejoindre des zones aussi lointaines est nulle.
Ça paraît un peu incroyable. Plus on avance dans le temps, plus les technologies quand même se développent. Donc ça paraît quand même fou qu'il y a 30, 50 ans, on savait faire des choses qu'on ne serait plus capable de faire aujourd'hui.
On est capable de les faire. Ouais. Mais on n'a pas envie de dépenser du temps et de l'argent pour un objectif qui est simplement celui de connaître. Alors aujourd'hui, on dépense beaucoup d'argent pour un objectif qui est directement lié à l'exploitation. Je vais chercher dans cet endroit-là parce que je sais qu'il y a des nodules polymétalliques, ou je vais chercher dans cet endroit-là parce que j'y trouverai les éponges qui pourraient me donner des molécules chimiques qui me permettront de faire des crèmes solaires qui me rapporteront beaucoup d'argent. Voilà. Donc, l'objectif est différent. Cousteau ne nous demandait jamais si nous avions fait des découvertes, il nous demandait toujours si nous avions bien exploré, ce qui est complètement différent. Si nous nous étions fait plaisir, si nous avions satisfait notre gourmandise de connaissances, c'est tout. Et la différence entre le monde de l'exploration gourmande pour aller voir qui vit là et comment il vit avec les autres êtres vivants n'a rien à voir avec l'exploration qui est tournée pour retrouver des ressources à exploiter ou des lieux à mettre en coupe réglée. Complètement différent.
Attends. Je vous avoue, c'est un petit peu là où je voulais en venir. J'ai l'impression qu'en fait, ce sont des endroits où on n'a pas forcément d'intérêt à aller là-bas, en tout cas pas d'intérêt économique. Et c'est pour ça que vous disiez qu'on n'y retournera peut-être pas de sitôt.
En tout cas, c'est aussi le monde est incroyablement vaste. Et lorsque nous sommes en plongée, nous explorons des zones très restreintes qui changent beaucoup. Chaque instant est loin et différent. Et j'insiste aussi sur cette dimension temporelle. Le peu de temps que nous étions sous l'eau ne nous donnait pas la possibilité de bien comprendre les écosystèmes. Ils vivent, ils sont en dynamique permanente. Par conséquent, ça change tout le temps. C'est quelque chose qui est important. Le monde est toujours renouvelé. Même si on reste dans un lieu, chaque jour, il va changer. Et il est bien difficile de comprendre cette dynamique, de s'inscrire dans cette dynamique. Elle est très, très, très importante. Je le mesure chaque jour un petit peu plus parce qu'on croit qu'il a existé à un moment donné une sorte d'Éden extraordinaire. Non, c'est toujours changeant. Et il faut bien s'inscrire dans cette dimension évolutive. Et c'est ça que l'on comprend lorsque on retourne sur des endroits où on a déjà plongé, où on est déjà allé. Ils sont différent. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Et pas simplement plus riche, moins riche. Il y a une dynamique qui a fait que, comme nous, il change en permanence.
Vous avez énormément étudié les cachalots et les requins, François. On voit, comme je disais au tout début, on voit des photos de vous impressionnantes avec des espèces, des requins, des cachalots, et vous, en tout petit plongeur à côté. Et il y a également ces images vidéo qui ont été retransmises dans le documentaire Océan de Jacques Perrin. C'était une sacrée aventure pour vous, ce documentaire ?
Alors, c'était une sacrée aventure parce que Jacques Perrin et Jacques Ludo, le co-réalisateur, et toute l'équipe, 450 personnes. Donc, vous imaginez l'aventure formidable que c'était. Partager ces aventures avec 450 personnes, c'est juste merveilleux. Eh bien, oui, là encore, Jacques Perrin nous a permis d'aller dans des lieux qui étaient réservé, par conséquent, où nous avons pu nous mêler au grand peuple des océans, dans son intégrité, dans ses réserves marines, où on retrouve des animaux géants, parce qu'ils ont eu le temps de vieillir, le temps de grandir, et ça c'est formidable. Et sur les photos de Pascal Cobé, les films de Didier Noireau, effectivement, on voit des... des monstres formidables, monstrueux, parce que ils sont grands, gros. Sur ces photos, on voit des animaux gigantesques qui sont le signe, gigantesques parce qu'ils sont vieux, encore une fois, sont le signe indubitable de la préservation des écosystèmes. Pour savoir si un écosystème est sain, s'il est préservé, s'il n'est pas exploité, il suffit de voir s'il y a des grands individus âgés. Voilà. Parce que ce sont ces individus qui disparaissent les premiers et qui ne sont jamais remplacés. Si on voit un mérou qui a 50 ans, eh ben c'est qu'il est là depuis 50 ans. Et donc, s'il est là depuis 50 ans, c'est qu'on n'y a pas pêché. En revanche, dès qu'on y pêche et qu'on le supprime, il va falloir attendre 50 ans avant de revoir un mérou qui a 50 ans. C'est une dimension, la dimension du temps, qu'on ne prend pas en compte. C'est un poisson en moins ? Non, ce n'est pas un poisson en moins. C'est 50 ans en moins. C'est ça qu'il faut dire. Et ça change tout.
Comment vous avez...
C'est comme un chêne qui a 500 ans, et un chêne qui est tout jeune, c'est toujours un, mais il y en a un, il a fallu attendre 500 ans pour qu'il atteigne cet âge vénérable. Et on ne fait pas l'économie du temps.
C'est une très bonne comparaison, je pense, avec les arbres. On a tous conscience qu'un arbre va avoir besoin de temps pour pousser. C'est vrai que sur les poissons, on se dit plus « oh, bah, ça se reproduit vite de toute façon ». Et en fait, ça dépend.
Ben oui, ça se reproduit vite, mais pour atteindre 50 ans ou pour atteindre 100 ans, ben, il faut avoir attendre 100 ans. Sans pêche. Et aujourd'hui, le rythme de notre exploitation est tel qu'il ne permet jamais aux jeunes d'atteindre parfois la maturité sexuelle, simplement, mais en tout cas, un âge qui correspond à l'âge limite de l'espèce.
Complètement. Vous avez passé du coup beaucoup de temps dans l'eau à observer la vie marine. Pour revenir sur les cachalots, dans le livre, vous décrivez des comportements sociaux qu'ont ces espèces. Il y a notamment quelque chose qui m'a marqué sur le fait que les mamans vont en fait créer un système de nourrice, de nounou. Donc quand il y a une maman qui va partir chasser, une autre maman va garder les petits autour d'elle et va prendre soin d'eux. Ça paraît quand même hallucinant comme comportement. C'est des choses que on pourrait retrouver chez nous, les hommes. Et là, c'est quelque chose que vous avez observé ça sur ces espèces. Comment vous arrivez à observer ce comportement et à vous dire « Ah, c'est comme ça qu'elle fonctionne ?»
Alors, les cachalots sont des êtres sociaux, des personnes non humaines qui sont extrêmement solidaires et dont toute la société est tournée autour des jeunes, de leur préservation, de leur éducation, parce qu'il y a des cultures qui sont transmises et ces cultures et ces soins sont évidemment donnés par la mère, par des nounous allaitantes et souvent une babysitter. La babysitter s'occupe de surveiller les petits, la crèche en général, elle se laisse téter, mais elle n'a pas de lait, alors que les nounous allaitantes ne s'occupent que d'un petit, qui n'est pas le sien, et l'allaitent, mais ont moins tendance à s'occuper des autres petits, et même les délaissent, et ne s'occupent pas de la crèche. Donc c'est une structure sociale extrêmement complexe et solidaire. Alors comment est-ce que nous pouvons observer ça? Ça tient à plusieurs choses. La première, à ce que nous sommes extrêmement respectueux des cachalots et donc qu'ils nous acceptent et ils nous acceptent au point de nous permettre d'être parmi eux, même pendant les moments où ils sont les plus vulnérables, au moment où ils dorment, dans les moments de grande intimité, lorsque la mère ou la nounou laisse téter un petit. C'est aussi parce que nous passons beaucoup de temps avec eux, que nous les connaissons individuellement. Bien souvent, les petits, nous les avons vus naître ou quasiment, nous connaissons l'âge de chacun, nous les avons vus grandir, nous les avons vus petit à petit exprimer leur personnalité nous avons partagé avec eux, ou ils ont partagé avec nous de longs moments. Et donc ce partage, ce respect mutuel, cette habituation qui fait que tout d'un coup, eh bien, on fait un petit peu partie de la famille et qu'il continue à vivre, même quand nous sommes là de façon tout à fait naturelle, comme si nous n'étions pas là, fait que nous pouvons partager avec eux ces moments et donc comprendre qui est qui. On a aussi l'analyse génétique qui nous permet de savoir sans aucun doute qui est la mère de qui et puis qui est la nounou de qui, et donc de suivre un petit peu ces affinités à la fois sociales et ces liens parentaux, et de voir un petit peu comment ces liens sociaux évoluent au cours du temps.
Il faut du temps, du coup, dans l'eau pour
observer. Il faut du temps, il faut du temps. Là encore, on ne fait pas l'économie du temps. Pour comprendre l'évolution d'une société, il faut vivre au sein de cette société. C'est pareil pour les hommes, pour les cachalots, pour toute société. Sinon, on n'a qu'une photographie, un instantané, qui ne peut en aucun cas donner une idée des liens sociaux et surtout de leur évolution. Une société, c'est quelque chose qui est, là encore, dynamique et qui fait que les uns et les autres, nous tissons des liens plus ou moins forts qui vont se serrer ou se desserrer et qui font que petit à petit, on crée sa propre personnalité, on construit sa personnalité avec ses amis et avec ceux avec qui on tisse des liens. L'histoire du vivant, c'est une histoire de liens, de dépendance, d'interdépendance, de relation entre les uns et les autres. C'est pas une affaire de morphologie ou d'individualité. Un individu n'est rien. Ce qui le définit, ce sont ses relations avec tous les autres vivants et avec surtout ceux qui sont le plus proches. Et ici, au sein du clan des cachalots, eh bien, pour un petit, c'est sa mère, c'est sa nounou, c'est sa babysitter et c'est ses copains, parce qu'ils tissent des liens plus ou moins forts avec les autres petits cachalots. Les liens ne sont pas tous les mêmes. C'est comme dans une cour d'école, il y en a qui jouent au football ensemble, il y en a qui jouent aux billes. Quand on regarde de loin, on a l'impression que tout ça s'agite et qu'ils sont tous les uns avec les autres de façon indifférente. Pas du tout. Il y a bien ceux qui vont rester ensemble pour jouer au ballon et ceux qui vont rester ensemble pour jouer aux billes, et ils ne se mêleront pas entre eux. Et ben c'est pareil chez les cachalots.
Et vous leur avez même donné des noms à tous ces cachalots.
Puisque chacun est une singularité, chacun a sa personnalité, il n'y a aucune raison de ne pas leur donner un nom qui les qualifie comme nous, ils nous qualifient. Nous n'aimerions pas que quelqu'un nous appelle par notre numéro de sécurité sociale. Notre numéro de sécurité sociale, c'est quelque chose de très précis. Alors là, pour le coup, il n'y a aucune ambiguïté, il n'y en a pas deux pareils. En revanche, il peut y avoir des homonymies, d'autres pourraient s'appeler François Sarano aussi. Bon, c'est possible, mais il est plus humain, plus vivant de nous donner un prénom que de nous appeler par notre numéro de sécurité sociale qui nous réifie, qui nous chosifie, qui nous ramène à des choses qui sont interchangeables et sans vie. Enfin bon, quand on veut nier la personnalité de quelqu'un, ben on lui donne un numéro et on lui enlève son nom. C'est pareil pour les autres êtres vivants qui sont, encore une fois, des personnes non humaines qui ont une intelligence différente de la nôtre, mais une intelligence du monde, qui ont une conscience du monde différente de la nôtre, mais une conscience du monde, et qui construisent comme nous, au cours de leur vie, heure après heure, minute après minute, leur personnalité. Et plus elles ont d'expérience, plus leur personnalité se modifie et plus elle devient singulière et différente de toutes les autres personnalités. Par conséquent, il est normal de leur donner des prénoms comme nous en avons. Et puis, c'est plus sympa en sortant de plongée de dire « Tiens, j'ai vu aujourd'hui Elliot avec tache blanche » que de dire « J'ai vu B6-2HB avec 46-12-13 ». C'est nul, quoi.
C'est sûr. Et pour ça, il y a quelque chose qui m'a interpellée chez vous. Donc, vous parlez sans cesse de la rencontre avec l'autre. On a parlé de vos rencontres avec les grandes espèces marines, mais sur le salon de la plongée, vous avez fait le parallèle aussi avec les rencontres humaines. Et vous dites, je ressens pleinement cette nécessité de me dépouiller des préjugés pour aller à l'écoute de l'autre. Quand je vous ai écouté dire ça, je me suis remise en question en me disant, voilà, je ne suis pas sûre, moi, de mon côté, d'être toujours à l'écoute des autres et d'être dans cette démarche de compréhension de l'autre. En quoi est-ce important pour vous ?
Alors, d'abord, lorsqu'on va rencontrer le requin blanc, sur lequel il a été dit tant de choses par des gens qui ne sont jamais allés les rencontrer, on s'aperçoit que la rencontre bouleverse les a priori permet, si encore une fois on y va complètement dépouillé et à l'écoute, de découvrir la vraie personnalité et toute la richesse de la différence de l'autre, ici le grand requin blanc. Donc, cela montre que, d'une part, il est nécessaire d'aller rencontrer, et nécessaire d'aller rencontrer, ça veut dire nécessaire de savoir recevoir l'autre et donc de se dépouiller complètement de tout ce que l'on a appris, de ce qu'on a entendu sur celui qu'on va rencontrer, et ce que cette rencontre, les yeux dans les yeux, change tout. C'est ça. Et donc, ce qui est valable pour l'altérité absolue que peut être le requin blanc, c'est valable pour tous ceux qui sont différents de nous, et en particulier nos voisins qui ont des traditions différentes, des cultures différentes, une sexualité différente, une religion différente, et qui sont riches de ces différences et sur lesquelles souvent nous avons des a priori qui nous enferment sur nous-mêmes et qui nous interdisent qui nous interdisent d'aller tout d'un coup leur dire bonjour et de nous enrichir réciproquement de nos différences. Donc je pense que la grande leçon de la rencontre avec les animaux marins, qui sont des rencontres authentiques, on ne peut pas tricher avec les animaux marins sauvages, hein, il faut vraiment y aller humble, nu et sans a priori, si on veut les approcher, si on veut les rencontrer. Cette leçon, c'est que ça ouvre toutes les portes. Ça ouvre toutes les portes, et même s'il est difficile de se comprendre, la seule volonté de vouloir se comprendre permet de trouver la distance juste pour vivre ensemble en paix. Lorsque je suis avec le grand requin blanc, je me doute bien qu'il ne me comprend pas, et moi je ne le comprends pas non plus. Nous n'avons pratiquement aucun point commun, nous n'avons pas les mêmes sens. Lui perçoit le monde par les vibrations qui sont transmises dans l'eau. Il perçoit le monde grâce à son odorat, il perçoit le monde en enregistrant les variations électromagnétiques. Tout ça m'est étranger au point que je n'ai même pas le vocabulaire qui permet de décrire le monde que le requin perçoit, voit. Et lui, eh bien, il n'a pas conscience du monde, il a une autre conscience, une autre intelligence du monde, donc il n'a aucune idée de ce que je peux, moi, savoir du monde. Et donc, ça paraît irréconciliable. Hein. On se dit, on peut si peu communiquer qu'on ne va pas pouvoir vivre ensemble. Si, on peut. Et j'ai pu nager épaule contre nageoire avec un énorme grand requin blanc. Nous l'avons fait plusieurs fois. Et donc, cela montre qu'au-delà de l'incommunicabilité, de l'incompréhension, le seul fait de vouloir avoir confiance en l'autre, approcher l'autre, le vouloir rentrer en communication avec l'autre est plus fort et plus important, et que ça permet, encore une fois, de trouver une distance de confiance qui permet d'être en paix ensemble. Ça me paraît, moi, une vraie clé. Je suis sûr que je ne vais pas comprendre quelqu'un qui est né à Pékin et qui a vécu toute sa vie à Pékin, qui parle le chinois, qui a une autre culture. Bien sûr que c'est un monde si différent, sa culture est si belle et si différente qu'on ne va pas pouvoir se comprendre. Mais si tous les deux nous tendons la main et que nous essayons de nous comprendre, à ce moment-là, on va pouvoir être ensemble, on va pouvoir trouver cette distance de confiance qui va nous permettre d'être en paix et mieux, hein, si au-delà de ça, on échange par l'art, par toutes sortes de moyens de communication qui dépassent la compréhension linguistique. C'est ça cet objectif. On va être 10 milliards d'habitants sur la planète. Il faut arriver à trouver cette volonté de communiquer pour être en paix.
Je vois à quel point c'est important pour vous, cette communication, cette compréhension de l'autre. Et c'est vrai que cette démarche que vous avez eue sous l'eau, j'ai clairement l'impression que vous l'avez aussi sur Terre avec les autres. Et ça, je pense que c'est plein d'enseignements. Et voilà, ça m'a en tout cas, moi, rappelé un petit peu à l'ordre en me disant voilà, on n'est pas obligé de tous se comprendre à 100%.
Mais on ne peut pas se comprendre. D'ailleurs, en ce moment même, ce que j'exprime est... Et vous ne le recevez pas tout à fait comme moi je crois que vous le recevez, parce que derrière vous avez une culture différente, vous savez des choses que je ne sais pas, vous avez une vie différente qui fait que les mots que j'utilise, eh bien vous les recevez comme aucun autre. C'est obligatoirement une réception singulière qui fait qu'elle n'est pas tout à fait la même que ce que je crois avoir émis. Donc, nous utilisons le même langage, nous parlons la même langue en français, nous avons une culture qui est assez proche, et déjà là, il y a une petite différence. Alors, imaginez correspondre, échanger avec des gens qui ont une autre culture de départ, qui ont vécu dans d'autres sociétés, et puis après, imaginez des animaux qui n'ont même pas les mêmes sens que vous. Comment communiquer avec un cachalot dont le monde est écolocalisation? Donc, dans le monde est un monde à trois dimensions qui est totalement différent du mien. Comment communiquer avec lui? C'est impossible. D'ailleurs, l'idée de cette incommunicabilité entre nous a été très vite mise en avant. On ne peut pas se mettre dans la tête de l'autre. C'est impossible. C'est impossible. Et à partir du moment où on réalise ça, l'idée de se comprendre doit être dépassée par simplement l'idée de vouloir se comprendre. Voilà. On est tellement singulier, chaque être vivant est tellement singulier qu'il y a une impossibilité à savoir ce que l'autre reçoit.
Voilà. Complètement, une histoire de perception. Alors, pour faire suite, il y a quelque chose aussi qui m'interpellait quand on parlait des relations qu'on peut avoir entre humains. Dans le livre, vous avez l'air assez touché, vous parlez beaucoup du fait que l'on est très connecté, mais pour le coup, à nos téléphones, à des écrans, que l'on manque de connexion avec la nature, que l'on passe peut-être pas assez de temps avec les autres et que l'on n'est pas assez dans l'instant présent. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui vous blesse.
Bah, c'est... Rien ne me blesse. Simplement, le mot écran signifie bien ce qu'il veut dire, écran. Cela veut dire que lorsqu'on est devant son écran, on met un écran à la relation avec les autres, c'est-à-dire qu'on se coupe des autres. Contrairement à ce qu'on pense, même si ici nous profitons de cet échange à travers un écran, en général, on n'est plus les yeux dans les yeux, on n'est plus avec les autres, et on limite surtout notre relation à l'autre au verbe, alors que une relation, ça se fait avec cinq sens. Hein, il y a l'odorat, il y a le toucher, j'accorde une grande, grande importance au toucher, au tactile, et ça se vit, je le dis le mot, ça se vit pleinement avec de la transpiration, avec de la fatigue, avec des sourires, avec des larmes, avec de la joie, avec toutes choses qui sont lissées et qui disparaissent lorsqu'on est derrière un écran, et pire aujourd'hui, lorsque tout d'un coup, on vit à travers un avatar. Et cette déshumanisation, dévitalisation, je suis désolé, mais on n'est plus vivant lorsque tout d'un coup, on limite son échange avec le monde à un monde virtuel, le mot est là, et se coupant de la réalité du monde, on est hors sol, et donc on est déjà citadin, on est peu lié aux autres êtres vivants qu'aux humains, puisqu'il n'y a plus d'êtres vivants dans les villes, hein. Même les arbres sont incarcérés dans des tout petits trous au milieu des trottoirs, les oiseaux, on n'a plus de relation avec eux. Donc déjà dans les villes, c'est difficile d'être avec les autres vivants. Alors si en plus on s'enferme chez soi et qu'on met des écrans autour de soi qui nous coupent du reste du vivant, alors on l'oublie, il n'existe plus. Et par conséquent, n'existant plus, on ne se soucie plus de lui. Il faut retrouver des relations avec le parfum des fleurs, avec la pluie, la bruine, la chaleur du soleil, bref, tout ce qui fait notre relation au monde pour pouvoir s'en soucier et le préserver. Car aujourd'hui, ce qui fait en grande partie que nous ne changeons pas de comportement et que nous laissons disparaître les autres êtres vivants autour de nous, fait que et que nous sommes totalement indifférents, puisque pour nous ils n'existent pas. Donc il faut retrouver cette relation, et à ce moment-là nous nous retrouverons riches de la relation que nous avons avec eux et de tout ce qu'ils peuvent nous offrir, parce que la vie sauvage, les autres êtres vivants sont totalement imprévisibles et ouvrent des champs d'imaginaire formidables.
Et pourtant, François, là, aujourd'hui, on se retrouve tous les deux derrière un écran. On a un échange qui, pour moi, a de la valeur. Et pourtant, on est derrière cet écran. Et parfois, je me demande, est-ce qu'à la fin de ma vie, je me dirais, mince, j'ai passé trop de temps derrière les écrans. J'ai parfois cette pensée en me disant, mais est-ce qu'on n'est pas un petit peu en train de rater quelque chose, de passer à côté de quelque chose en étant trop derrière ces ordinateurs, ces téléphones? Et d'un autre côté, je me dis, ouais, mais ça nous permet de faire tellement de choses. Quand je suis partie à l'étranger, j'ai du coup gardé contact avec ma famille, avec mes amis, grâce à ces fameux écrans. Est-ce qu'il y a du coup un équilibre à trouver? Qu'est-ce que vous en pensez?
Ce que j'en pense, c'est que nous n'avions pas besoin d'écran avant et qu'on était très heureux. Mon père n'a pas connu les écrans et quand il était jeune, il était très heureux. Encore une fois, ces écrans ici sont là pour nous permettre de raconter des histoires que chacun pourrait vivre et n'aurait pas besoin d'écouter ces histoires. Là, en deux mots, chacun les vivrait. Chacun les vivrait et... les voyages qui étaient des vrais voyages autrefois, hein, là pour le coup c'était pas de la consommation de séjour à l'étranger, quand on faisait un voyage, on allait pour le coup rencontrer les autres, on n'était pas enfermé dans des clubs de vacances et on ne consommait pas du soleil dans un endroit différent de notre lieu de vie habituel. Aujourd'hui, j'ai peur que le mot voyage ait perdu beaucoup de son sens. Donc, c'est sûr que quand on ne voyage plus, mais qu'on va juste séjourner dans des lieux loin, mais pas très différents de ceux que, dans lesquels on est habituellement, ben, on a besoin d'écouter d'autres personnes qui, elles, sont allées par procuration rencontrer les autres. Donc, non, quittez vos écrans et puis allez directement les pieds nus dans l'herbe, regardez les escargots et les limaces et les abeilles, et puis allez parler à un apiculteur au lieu d'aller écouter quelqu'un qui a parlé avec l'apiculteur. Voilà, je pense que c'est un faux problème. C'est nous qui le créons de toutes pièces, de toutes pièces.
Arrêtons de rêver en fait et de vivre les choses.
Mais non, vie par procuration. Mais... Aujourd'hui, on consomme du loisir, on consomme du voyage. Non, c'est même pas du voyage ou des loisirs. C'est
des vacances.
Ouais. On est faux.
Je comprends. Et mais alors, du coup, là, vous dites, voilà, allez vivre les choses par vous-même, allez faire vos propres expériences, allez à la rencontre. Et pourtant, vous parlez beaucoup de l'importance du partage. Quand je vous ai sollicité pour faire cette interview, j'imagine que vous avez un agenda quand même très chargé et vous avez accepté. Je sais que vous faites beaucoup d'interviews avec d'autres médias. J'ai l'impression que c'est quand même quelque chose qui vous tient à cœur de partager tout ça. Et vous avez même dit, et ça, moi, ça m'a du coup un petit peu interpellée aussi, j'avoue ne pas toujours être dans cette démarche de partage et en fait vivre parfois des choses exceptionnelles. Et je ne sais pas pourquoi, mais je n'arrive pas à les partager, à les communiquer à mes proches, aux gens que j'aime, comme s'il y avait un petit peu une gêne, une honte, ou je ne sais pas. Et je me dis, et de toute façon, même si je le partage, je n'arriverai jamais en fait à transmettre ce que moi j'ai vécu. Donc, ce n'est pas la peine. Et vous, j'ai l'impression que vous êtes complètement dans une démarche inverse en disant non, en fait, il faut partager. Et vous aviez utilisé une phrase un petit peu forte en disant voilà, le jour où en fait, vous mourrez, si vous n'avez rien partagé, ben, on ne se souviendra pas de vous, vous n'aurez peut-être pas servi à grand-chose. Alors que pour vous, notre utilité sur Terre, elle est justement d'être dans ce partage.
Toute l'histoire de l'humanité est dans le partage. De ce qu'on vit avec les autres. Le vivant n'est que cela, partage et relation. Et une expérience ne prend son sens que lorsqu'elle est transmise et offerte. Par conséquent, oui, il me semble que le partage est la chose la plus importante. Une plongée, elle se vit plusieurs fois. Elle se vit véritablement au moment de la préparation, après ça, au moment où on jouit d'être sous l'eau et de rencontrer les animaux, et puis après, au moment où on la raconte. Si on la garde pour soi, bah, elle est petite. Elle est un peu, oui, petite, recroquevillée sur elle-même. C'est important de le partager, mais partager, c'est aussi partager dans une salle avec les autres, c'est aussi au cours d'un dîner, c'est aussi… Le partage, il n'est pas simplement dans les médias, il est dans les médias parce que malheureusement, aujourd'hui, encore une fois, tout le monde n'a pas la chance de pouvoir aller rencontrer les cachalots, ou tout le monde n'a pas la chance d'avoir un grand jardin, ou tout le monde n'a pas la chance de pouvoir vivre ça, mais c'est aussi parce qu'il est nécessaire de réveiller cette envie, réveiller l'envie d'aller, encore une fois, marcher pieds nus dans l'herbe. Ça me paraît quelque chose de si riche, de si important, que le matin, la première chose que nous faisons à la maison, c'est d'aller voir dehors, de regarder les arbres, d'écouter les oiseaux. Il y a beaucoup de mésanges, de merles, de fauvettes qui sifflent le matin, de prêter attention à chacun et de leur donner existence. Quand j'écoute le merle, je lui donne existence. Si je ne l'écoute pas, il n'est pas là, il n'existe pas. Il peut être devant moi, si je ne lui prête pas attention, il n'existe pas. Et tout d'un coup, en lui prêtant attention, ah, il existe. Et son chant mélodieux et merveilleux, il m'éblouit, Il m'enrichit. Je peux vous l'offrir d'ailleurs. Je vous offre ce champ de merle. Et en vous l'offrant, on est dans ce partage plus riche à trois maintenant. Le merle, vous-même, moi, et on n'a privé personne. En deux mots, prêtez attention à ce qui nous entoure. Non seulement ça donne existence à chacun, à l'arbre de Judée, à mon voisin, au merle, et ça m'enrichit de tout ce qu'ils peuvent m'offrir, et j'en suis heureux. Et c'est quelque chose qui est juste merveilleux, parce que, sans écran, là pour le coup, je l'ai reçu pleinement avec mes oreilles, avec tous mes sens, et c'est apaisant. Donc quand on commence la journée comme ça, on est un petit peu guilleré. Voilà, bon, ouh, il fait froid ce matin, mais je ressens le froid, je vis le froid. C'est humide, oui, mais des fois c'est un petit peu humide. Voilà, c'est se sentir vivant, c'est se sentir avec tous ses sens. Et encore une fois, comme nous le faisons souvent, Véronique et moi, Véronique, mon épouse et moi, ensemble, on démarre la journée avec toutes les créatures vivantes qui sont autour de nous. Bon, puis après, ben, on est mieux à même de le partager si on est devant nos écrans comme en ce moment même, de le faire. Mais j'invite chacun à ne pas être devant l'écran et à le faire. C'est très facile. Je suis sûr qu'en ce moment, dans les rues parisiennes, les marronniers sont en fleurs, le tilleul commence à sentir bon, les abeilles sont... Et les abeilles, on dit les abeilles. Vous savez qu'il y a 40-50 espèces, beaucoup même peut-être plus que ça, d'espèces d'abeilles. Ah, si on prête attention, on découvre tout d'un coup qu'il n'y a pas que l'abeille domestique. Il y a toutes sortes d'abeilles sauvages qui, elles aussi, butinent les fleurs des arbres qui sont dans les villes. Et on est riche de toutes ces abeilles qui n'existaient pas jusqu'au moment où on leur prête attention. Prêter attention est quelque chose qui est formidable. Lorsqu'on prête attention, tout d'un coup, on mesure la singularité de chacun, pas simplement la singularité de chaque espèce, mais de chaque individu. Et lorsque tout d'un coup, on mesure la singularité de chaque individu est différent, comme vous êtes différente de tous ceux et celles qui vous entourent, humains qui vous entourent, eh bien, à ce moment-là, on découvre l'immensité de la richesse de la diversité du monde, et c'est juste... Bon. Vertigineux et bouleversant. Et après ça, lorsqu'on réalise que chacun est singulier, on se rend compte que chacun est irremplaçable, puisqu'il est singulier, unique au monde. Cet arbre de Judée est unique au monde, irremplaçable. Ah bon ? Cette abeille irremplaçable, vous-même irremplaçable. Irremplaçable ? Alors il faut faire très très attention. Très attention à ne pas blesser, puisque vous êtes unique, irremplaçable. Et si je dois consommer parce que je vis, je mange comme ça, il faut que je le fasse avec parcimonie. Puisque si j'efface une vie pour manger, c'est quelque chose qui ne reviendra jamais plus. Donc, je vais le faire avec égard, avec modération. Je vais vraiment faire attention à ce que je fais. Si ce dimanche, on mange un poulet, ben c'est un être qui ne reviendra plus jamais, qui était unique. Bon, donc, est-ce qu'on va le faire ? Bon, voilà. Découvrir la singularité de chacun en prêtant attention fait qu'on découvre un monde à la fois infiniment riche et infiniment fragile et précieux. Et... surtout que, on est l'un de tous ces irremplaçables, de toutes ces singularités, parcelle de toutes les singularités vivantes. Et ça permet de se sentir vivant.
Oui, c'est vivant, apaisant aussi, je trouve. Hein. C'est apaisant de retrouver de simplicité dans un monde un peu complexe. Et pour terminer ce podcast, François, j'aimerais qu'on s'immerge avec vous le temps d'une plongée, la plongée de votre choix. Est-ce qu'il y a une plongée qui a été plus marquante qu'une autre ? J'imagine qu'il y en a eu beaucoup. Est-ce qu'il y a une plongée que vous avez envie de nous partager, de nous raconter avec vous, et peut-être qui donnerait envie soit aux plongeurs qui nous écoutent de faire ce genre de plongée, de continuer, ou bien même à des personnes qui n'ont encore jamais plongé, peut-être d'aller la tête sous l'eau ?
Je suis avec mon ami Clay Wilcox. on était en train d'explorer les fonds sous-marins de l'île Horn, le bout du monde. Ouf, l'eau est froide, un peu sombre, il n'y a pas de soleil, il pleut tout le temps. Et on est dans la forêt de kelp. Les kelps, ce sont des grandes algues marines qui montent vers la surface et qui mesurent une vingtaine de mètres de haut avec des frondes qui ressemblent à des grandes feuilles. Et on est dans cette forêt et on nage et on est en train de chercher ce qu'on va pouvoir filmer avec l'équipe de l'Alcyone. Et soudain, tout d'un coup, on est cerné. On est entouré par un peuple différent de nous. Ce sont des lions de mer, des grands lions de mer. Les lions de mer, c'est comme une otarie. Et là, ce sont des êtres virevoltants, des elfes qui tournoient, qui cabriolent, qui nous tournent autour, qui viennent à deux pas de nous. Ouh, les yeux, alors pour le coup, les yeux dans les yeux, car ils nous regardent et ils nagent. Alors on se met à cabrioler avec eux. On tourne sur nous-mêmes, on virevolte, ils nous frôlent, on se frôle. Et dans cette forêt magique, c'est ce moment-là, nous renvoie dans c'est mieux qu'Alice au pays des merveilles, d'autant que l'apesanteur que nous avons dans l'eau nous permet toutes les facéties. Nous sommes des papillons et des libellules dans la forêt, on passe entre les branches, on est dans un monde totalement féerique. Et les lions de mer, qui sont encore une fois probablement les êtres vivants les plus agiles dans l'eau, nous donnent l'idée que le monde dans lequel ils vivent et qu'ils nous accueillent est un monde où tout est possible, puisque on a à cet instant on vit un moment de bonheur entre deux espèces complètement différentes dans un monde qui paraît irréel et qui pourtant est notre monde à nous. Simplement parce que dans ce lieu loin des hommes, où il n'y a pas de chasse, eh bien, deux espèces différentes ont pu se croiser en paix et vivre un jeu, un moment de bonheur formidable.
Merci du partage de cette belle plongée. Et c'est vrai que j'ai ce ressentiment-là quand je vais plonger et que je découvre des paysages, des endroits ou des espèces, je me dis, je ne soupçonnais pas en fait que ça existait. Et je me dis, mais c'est quand même génial d'avoir ça juste à côté de chez nous. Pour le coup, je ne vais pas plonger dans les endroits aussi reculés que vous. Et voilà, et de se dire, mais on a accès à ça finalement. Waouh, enfin, pour moi, c'était vraiment une découverte d'un nouveau monde, quoi.
Voilà. Le milieu marin a ceci d'intéressant, qu'il est peuplé de créatures qui ne font pas la relation entre notre prédation terrible avec les filets de pêche et nous, les plongeurs. Par conséquent, on peut les approcher et ils ne fuient pas. Et si on est très calme et très respectueux, on se mêle à eux. On peut être au milieu d'un banc de poissons, on peut nager avec les baleines, on peut nager avec les dauphins, mais cela ne dépend que de notre respect et de notre calme et de notre patience. Et donc, ils nous accueillent et on découvre effectivement ce que pourrait être la relation que nous pouvons avoir avec les animaux à terre. Hein. C'est une relation un peu originelle, sans peur, pendant l'essentiel de la... des moments qu'on passe avec eux, c'est formidable.
Et ça, vous avez toujours souligné ça, le fait, j'ai l'impression que les plongées exceptionnelles, les moments exceptionnels que vous avez vécu sous l'eau, c'était sur des zones, et vous avez mentionné deux fois, où il n'y avait pas de pêche, où il n'y avait pas de chasse. Il y a un point important quand même que vous soulignez.
Oui. Là, c'est parce que les animaux sont à la fois plus nombreux, il y a une grande variété d'espèces, on rencontre des grands, grands individus âgés, et ça, c'est quand même formidable. Mais même dans les lieux où il y a de la pêche, s'il y a de la chasse sous-marine, là par contre effectivement les animaux vous fuient parce qu'ils font tout de suite la relation entre celui qui est sous l'eau et le chasseur, et la relation est délétère, ben, ils s'en vont, quoi. Mais dans les endroits où il n'y a pas de chasse sous-marine, on peut approcher les poissons très très facilement, donc on noue avec eux des relations qui sont au moins des relations de confiance qui permettent de se côtoyer.
Et vous dites, vous dites que les baleines sont plus à l'aise avec les hommes depuis qu'on ne les chasse plus. C'est un comportement que vous avez observé ?
Alors, c'est un comportement vécu. Quand on était dans les années 80 à bord de la Calypso, il était très difficile de nager avec des baleines ou avec des cachalots parce qu'ils fuyaient les bateaux. Ils fuyaient les bateaux, ils fuyaient les hommes. Hein, on avait, et puis ils étaient moins nombreux. On avait tellement massacré les baleines et les cachalots que les rescapés étaient rares et qu'ils, encore une fois, ils nous fuyaient. Aujourd'hui, 40 ans après l'arrêt de la chasse, bon, les baleines et les cachalots ne fuient plus les hommes, ils ne fuient plus les bateaux, ils se laissent approcher. Et parfois, malheureusement, certains d'entre nous ne sont pas assez respectueux et considèrent que ces animaux qui leur offrent une rencontre est un jouet qui leur appartient, et c'est là où ça dérape. Et je le regrette parce que je pense que c'est la rencontre qui peut nous faire changer. Mais il faut apprendre à rencontrer et donc apprendre à être respectueux et à l'écoute pour pouvoir rencontrer. Et c'est toujours l'ambiguïté. On ne fait pas l'économie de cette rencontre, mais il faut d'abord apprendre à écouter et à respecter l'autre chaque seconde, que ce soit en famille, que ce soit à l'école, que ce soit en société. Malheureusement, aujourd'hui, notre consommation du monde nous pousse à consommer les autres, c'est terrifiant, et à croire que tout nous est dû et que la relation peut se payer, se monnayer. Elle ne se monnaye pas, elle est reçue et offerte.
Super, ben, merci beaucoup François pour tout ce que vous avez partagé avec nous. J'étais ravie et honorée d'avoir cette interview avec vous. Merci pour le temps que vous m'avez accordé. Ça fait un petit peu plus d'une heure, donc je vais vous relâcher. Merci beaucoup.
Merci. Et puis, j'espère que vous tirerez quelque chose de ce brouillon de réponse.
Aucun doute là-dessus. Je rejoins le brouillon, non pas par la qualité de ce que vous nous avez dit, mais par le fait que j'aurais encore 10 000 questions à vous poser. Mais je sais que vous avez déjà partagé beaucoup de choses au travers de vos livres, au travers d'interviews que vous avez faites. Et ça, on vous en remercie, parce que chaque parole est un apprentissage, un enseignement. Et pour moi, vous êtes un grand sage, François Sarana.
Un apprenti. Sage.
Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à le liker, le partager un max et à vous abonner pour découvrir les prochains plongeurs du podcast La Tête en Mer. À bientôt.